En voiture Simone, biste en bruit l'écoute, c'est parti, 102.2 FM en radio Canu, c'est parti!
Piston. Je suis une voix, je suis un message, je suis un représentant à domicile, je m'insinue chez vous, je vous fais réfléchir, je déclenche chez vous l'intérêt. Bien, la sympathie.
Ici, Londres.
Car je suis, quand j'arrive, le messager mystérieux.
Les Français parlent aux Français.
Ici Radio Canu. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les choux-fleurs mangent de sel. La voisine aime les macroutes. Le bambo est détendu. Piston brouille l'écoute. Tous les matins sur Radio Canu. Couper les nouilles au sécateur. La tante est dépitée. GG a des gaz. Je répète.
J'ai plus de voix.
La tante se répète.
Les
chocopops sont périmés.
Ton Charles viendra demain.
Ma mère, le plus dur reste à faire. Piston brouille l'écoute.
Hein? Hein?
Dis-t'embrouille les couilles.
Debout là-dedans, bonjour à tous, buongiorno a tutti, une quatrième émission Bistambrouille l'écoute sur les ondes de Radio Canus en 2.2 MHz pour cette semaine toute spéciale organisée par l'association La Voisine sur Lyon, dans différents lieux lyonnais en fait, qui a commencé hier avec une projection de film qui continue jusqu'à samedi. Et puis depuis lundi, donc cette émission temporaire sur Radio Canu, Bistan brouille l'écoute, dont nous avons pris les commandes, dont Bistan Claque plus précisément a pris les commandes, avec chaque matin des chroniques, invités, de la musique. Et au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes contents d'accueillir aujourd'hui Laurent Comble, célèbre chroniqueur de Radio Canu.
Exactement, merci de m'avoir invité dans cette émission, parce que je ne parle pas beaucoup à l'antenne de Radio Canu, donc ça me fait plaisir de faire une émission de plus.
Voilà, il faut savoir que Laurent Comble est plutôt du genre à officier généralement le soir, oui. Et que voilà, exceptionnellement, on l'a tiré de ses pénates matinales, mais sans aucun doute, il sera aussi vif au réveil qu'il l'est avant le coucher.
Très bien, ouais. J'espère.
Donc Laurent, pour une revue de presse, les imaginaires sonores, on en a écouté plusieurs. Pour ceux qui sont fidèles à l'antenne depuis lundi, eh bien, ils commencent à connaître le principe. C'était des petits documentaires sonores que Bistan Claque, en compagnie de stagiaires, avait réalisé sur les pentes de la Croix-Rousse et à Vénissieux. Ensuite, nous retrouverons un invité. Alors l'invité, ça sera un petit peu particulier puisque ça sera par téléphone qu'on le retrouvera, puisque on l'a même déjà retrouvé. Il pouvait pas venir directement aujourd'hui. C'est un des porte-parole de la Confédération paysanne qui viendra nous parler des actions qui ont été menées à Vienne la semaine dernière en protestation contre Nestlé.
Exactement. On en saura plus tout à l'heure.
Et puis moi-même, eh ben, je me lancerai peut-être à un petit moment de chronique. Et on finira en appelant le colonel Moutarde pour qu'il nous présente ce qu'il nous aura choisi sur Radio Potu. Quel sujet il aura choisi de Radio Potu à nous faire écouter aujourd'hui. Voilà, c'est sur 102.2, c'est Bistan brouille l'écoute.
يبقى الله
لا إله إلا الله
الشمس مليان حليب ونبري بيه بشادي. نشرح مال سيادية هنشرب طاس مليان حليب ونبري بيه بشادي.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا
بيستان بوي ليكوت.
Excusez-nous, chers auditeurs, nous avions oublié que nous étions sur la radio la plus anticléricale de Lyon et nous nous sommes un petit peu lâchés sur Layla Ilallah, Mohamed Rasoulallah. Cher Arimiti, la grande chère Arimiti qui nous a quittés il y a quelques mois.
Les imaginaires sonores.
Et nous enchaînons directement sur un imaginaire sonore. Les imaginaires sonores, ce sont des petits...
Ah.
Des petits...
Bonjour.
Ah.
Bonjour.
J'ai été élevé, hein, pas toi, donc...
On entend le matin tôt des oiseaux. On entend le matin tôt des oiseaux. On entend le matin tôt des oiseaux.
Qu'est-ce que tu as dit?
Il y a une hippie et puis la place.
Qu'est-ce que tu as dit?
Il y a une hippie et puis la place.
Qu'est-ce que tu as dit?
Dans le donne grave. Bon, la rotation d'une machine qui est dans le. Bon, la rotation d'une machine qui est dans le. La sélection de ville.
Bonjour.
Agressif, je dirais, ou agaçant. Agressif, je dirais, ou agaçant. Agressif, je dirais, ou agaçant.
Bonjour. Qu'est-ce que tu as dit?
Bon, la rotation d'une machine à qui l'on...
Qu'est-ce que tu as dit? Bonjour. J'ai été élevé un peu trop donc... Et lui,
bon, un petit peu de problème de réveil ce matin du côté technique. Voilà, alors on m'a coupé la chic, mais... On m'a coupé la chic, mais voilà, c'était donc un des petits imaginaires sonores, ces petits documents réalisés sur les pentes de la Croix-Rousse, autour du son des pentes de la Croix-Rousse. C'est l'heure maintenant, nous sommes jeudi, donc jeudi c'est le jour plutôt de la chronique de Laurent, et c'est même 9h15, l'heure de la chronique de Laurent que nous retrouvons donc pour une revue de presse.
Piste en brouille, l'écoute. Berce mon cœur d'une longueur monotone.
Berce mon cœur d'une longueur monotone.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Et les chroniques aussi.
Et oui, on va faire un petit tour de l'actualité. On va d'abord commencer par les dépêches qui sont tombées ce matin très très tôt, puisqu'on est quand même réveillé depuis 4h15 environ. Donc on a appris que l'Iran avait procédé à un tir d'essai balistique d'un essai qui s'appelle Shahab 3. Alors j'ai un moins bon accent que Renaud naturellement, mais bon, c'est à peu près le nom de ce missile qui a une portée de 2000 km. Alors la portée est intéressante puisque ça permet d'atteindre qui ? Je vous le donne en mille.
Ça serait un pays qui, en longueur un petit peu, qui serait entouré par le Liban et la Syrie.
Et ben voilà. Donc effectivement, ça pose, c'est un moyen de mettre une fois de plus la pression. Donc l'Iran continue son escalade. À noter qu'en fait, c'est une réponse à une autre provocation que sont en train de faire 5 des plus gros pays au monde, que sont la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, puisqu'il y a un exercice militaire qui est actuellement en cours dans le Golfe, donc à proximité des eaux iraniennes, par ces 5 pays, soi-disant un exercice naval de lutte contre la prolifération nucléaire. Donc effectivement, l'Iran réplique en disant « moi aussi je suis capable de faire des exercices ». Donc voilà, donc, si vous voulez partir en vacances au Liban, c'est le moment, les vols ne sont pas très très chers. Et vous pouvez y aller en missile, en plus ça va plus vite. Mais en lien avec l'Occident et notre rapport au Moyen-Orient, au Proche-Orient, un petit rapport de Human Rights Watch, ils sont chiants ces anglo-saxons là, l'organisme de défense des droits humains, si on veut traduire ça, ils ont donné un petit rapport hier au gouvernement de Tony Blair sur justement l'attitude du gouvernement de Tony Blair vis-à-vis du terrorisme et de la torture. Et donc, ils ont condamné, avec des mots, puisqu'ils n'ont pas d'autre pouvoir de condamnation, le gouvernement de Tony Blair, en disant qu'il ne respectait pas vraiment les droits des citoyens du monde, on va dire, notamment au niveau de la torture. Alors, c'est vrai que l'Angleterre ne torture pas forcément, mais le rapport rappelle qu'extrader des prisonniers d'un pays vers un pays où on sait que le pays pratique la torture, et ben c'est être complice de la torture qui va être pratiquée, que fermer les yeux sur les pratiques de leur principal allié, qui est les Américains, qui pratiquent la torture, c'est être complice de la torture. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc la Grande-Bretagne n'est pas impliquée directement dans des actes de torture, puisqu'a priori l'armée anglaise essaye de bien se tenir, mais le lien indirect existe, donc c'est ce qui nous a été rappelé par ce rapport. Toujours lié à la torture, à des choses comme ça. Le bilan Israël-Palestine hier soir, donc il y avait un match important, c'était Israël contre Gaza, et Gaza a perdu, donc 9 Palestiniens sont restés au tapis et un Israélien aussi. Donc ça fait suite à ce que fait Israël depuis quelques semaines dans la bande de Gaza, donc ils sont, on va dire, réinvestis dans la bande de Gaza, non pas pour l'occuper a priori, mais pour essayer, comme d'habitude, de démanteler au maximum les petits groupes palestiniens qui tirent des roquettes sur cet endroit, enfin sur Israël. Donc ils en ont profité pour tuer et des résistants et des civils qui passaient par là, parce que quand l'armée israélienne arrive, il ne faut pas passer par là, justement. Donc voilà, les situations restent tendues. Pas de condamnation internationale. J'ai bien lu la presse ce matin. Aucune condamnation, que ce soit dans les journaux de droite, d'extrême droite, Le Figaro, les choses comme ça, de droite classique, style Libération ou Le Monde, ou de gauche. Alors j'ai pas trouvé de journal de gauche, donc bon. Mais personne condamne, donc bien sûr, les actions d'Israël. Alors c'est un petit peu pénible aussi de voir l'attitude de la presse là-dessus. De même que la presse se glorifie des faits divers, vous avez vu le retour de la campagne présidentielle de 2002 dans nos télévisions, par exemple, où finalement l'actualité est faite de moitié de faits divers, les bus qui brûlent, etc. etc. La Commission nationale de déontologie de la sécurité redonne un rapport aujourd'hui. Alors c'est une commission qui avait été créée il y a quelques années, il y a 6 ans, je crois, pour surveiller un peu ce que fait la police. Et voilà, chaque année, elle fait un rapport. On a déjà eu le rapport de l'année dernière. Par contre, là, c'est le responsable qui s'arrête, puisque son mandat se termine ces jours. Donc, le président de cette autorité s'appelle Pierre Truche, c'est un haut magistrat. Donc, il a fait un bilan de ces 6 années en rappelant qu'effectivement, la Commission nationale déontologie de la sécurité a été beaucoup consultée au sujet de la police. Ça, on s'y attendait. Donc, en tout, il a noté 419 saisines, parce qu'on appelle ça comme ça. Il y en aurait une cinquantaine infondées, et toutes les autres ont été a priori fondées. Donc voilà. On rappelle qu'une saisine, elle ne peut être faite que par un élu de la République, ce qui fait qu'effectivement, la majorité des violences policières ou des exactions de la police de tous les jours ne m'en remontent pas jusqu'à cette instance-là. Mais voilà, ça fait quand même un petit peu peur. Alors, vous verrez à la une de vos journaux, puisqu'on revient encore un petit peu sur ces faits divers, puisque c'est un petit peu le leitmotiv de la presse. On nous prépare à l'arrivée du Front National au premier tour de la présidentielle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, il y a une presse qui est un petit peu plus sympathique quand même, qui fait des articles intéressants. Je vais vous parler de Libération aujourd'hui. Alors, Libération, le journal, certes, va mal, mais il y a encore des petites choses intéressantes. Donc, la une de Libération, c'est la petite bombe qui tue à retardement. Et oui, un gros article sur les bombes à fragmentation. Vous savez, c'est ces petites bombes qui contiennent d'autres petites bombes, qui contiennent à nouveau des petites bombes. Ça ne s'arrête jamais. On balance ça quand on fait la guerre. Les petites bombes toutes petites n'explosent pas forcément tout de suite. Et puis, quand les enfants ils viennent jouer dedans, et ben elle leur explose dessus. Donc c'est un petit peu ça qui est dénoncé par un rapport de Handicap International que dévoile Libération, donc avec un article assez intéressant qui rappelle que l'armée française est un petit peu schizophrène, comme ils le disent, puisque officiellement l'armée française n'utilise plus ses bombes à fragmentation ou à sous-munitions, parce que c'est le nouveau terme, mais qu'on en a d'abord utilisé pas mal, notamment dans des conflits, quand on a intervenu dans certains conflits, au Koweït, en Irak, avec la Libye en 84, des choses comme ça, mais que depuis, on les utilise plus, par contre, on en a toujours. Donc c'est toujours un peu un concept bizarre de l'armée, de conserver certaines armes, mais officiellement, on les utilise plus. Jusqu'à la prochaine fois, on va dire. Mais en tout cas, c'est... voilà ce que nous dit cet article, qui est très très bien fait. Ensuite, on voit apparaître aussi du vert un peu partout. Alors, le vert, non pas couleur de l'islam, mais couleur de l'écologie. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est la mode. Vous avez vu Schwarzenegger avec sa cravate verte dans les débats, là, qui vient défendre son 4x4 qui roule au biogaz ou au bioéthanol, ou ouais, je ne sais quoi.
C'est vrai?
Non, c'est vrai. C'est terrible. C'est très intéressant de voir Schwarzenegger faire semblant d'être écolo. Alors, il y a des villes qui font beaucoup plus d'efforts que nous. C'est Libération qui nous le dévoile. En Suède, par exemple, une ville qui s'appelle Limköping, qui a équipé ses bus, ses taxis, ses camions poubelles, une partie de ce qui roule et qui est municipal, avec des moteurs qui fonctionnent au biogaz. Donc un biogaz qu'ils fabriquent à partir de vin inutilisé, d'abats de bœuf, d'intestin de bœuf. Enfin, c'est un truc un peu glauque au départ, mais ça fait du gaz et ils réutilisent ce gaz pour mettre dans leur transport en commun. Juste pour rappeler qu'à Lyon, le transport en commun continue de puer. Rouler derrière un bus TCL, vous allez comprendre un peu votre misère. Donc il y a une alternative aux transports en commun polluants, c'est les transports en commun non polluants.
Sachant que les transports en commun sont quand même déjà une alternative à la bagnole polluante.
Voilà, les transports en commun c'est le moins polluant d'un truc très polluant. Donc, mais on peut aller vers le non polluant tout court, c'est la Suède qui nous le montre. Et puis toujours dans Libération, il y a une autre page aussi où on a une interview de Dominique Voynet. Parce que si vous ne le savez pas, c'est elle qui se présente pour défendre l'écologie, il paraît, dans la campagne présidentielle 2007. Bon, elle se plaint beaucoup en ce moment, Dominique, hein, parce qu'il paraît que les médias ne sont pas sympas et ne parlent pas d'elle. C'est vrai que les médias sont plus intéressés par Ségolène et Sarkozy que par un peu du fond sur une campagne présidentielle digne de ce nom. Mais donc voilà, elle rappelle que c'est elle qui défend les couleurs de l'écologie et que c'est une vraie écolo. Alors on pourrait discuter de ça un petit moment, parce que dans style vrai écolo, elle est attaquable pas mal, hein, parce qu'on l'a déjà vu dans des voitures, dans des trucs comme ça, enfin bon, bref, voilà, elle essaye de se faire entendre, et donc la Libération lui a donné une page complète, donc ils sont assez sympas, Libération, pour ça, on peut les féliciter, et voilà, il y a un petit truc sur Obad aussi, vous savez, les dessous, hein, avec les pubs un peu...
Oui,
les trucs où on voit des filles presque nues là, sur les abris de bus qui ont de grandes difficultés donc, puisque la société mère a décidé de délocaliser dans le nord de l'Afrique. Donc voilà, il y a un petit peu de ça aussi. C'est intéressant parce qu'il n'y a plus beaucoup de journaux qui parlent forcément de tout ce qui peut se passer au niveau syndical. Alors Libération dilue une info toutes les 5 pages dessus, mais il y en a encore une toutes les 5 pages dessus. Donc voilà, maintenant je vais passer à Le Monde. Donc plus ça va, plus on va à droite. Hein. On est parti de Libé qui est un peu à droite quand même, à Le Monde qui est très à droite. Mais alors, Le Monde découvre le Mexique.
Ce que j'aime dans ta revue de presse, c'est quand même une objectivité à toute épreuve qui vaut largement celle de la revue de presse de France Inter du matin.
Exactement, exactement, et je la suis. Donc, Le Monde, comme Libération, ont découvert, il y a quelques jours, qu'il se passait des choses à un endroit du Mexique qui s'appelle Oaxaca. Alors ça s'écrit Oaxaca, hein, mais on est très fort en mexicain, donc on prononce Oaxaca. Donc c'est quand même intéressant de voir la presse s'y intéresser maintenant. Alors il y a encore à nouveau à la une du Monde une photo sur les forces de police à Oaxaca. Qui ont l'air sympathiques. Hein,
du coup, on nous a épargné le dessin de Plantu.
Et du coup, il est en bas le dessin de Plantu. Ah.
Mais voilà. Donc, il nous rappelle que, effectivement, 70 000 professeurs, c'est quand même beaucoup, hein, 70 000 professeurs, sont en grève dans cette province du Mexique. 13 000 établissements sont fermés. Que les grévistes demandent toujours la démission du gouverneur ultra-réactionnaire, ultra-autoritaire de l'État, qui s'appelle M. Ruiz. Mais voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que la presse réagit 5 mois après tout le monde, alors qu'une petite partie de la presse très alternative avait déjà donné des infos sur ce qui se passait au Mexique. Puisque...
C'est-à-dire avant qu'ils se fassent taper dessus,
non,
au moment où c'était intéressant.
Enfin, voilà, ouais. Ils se sont fait taper dessus au début, où il y a eu pas mal d'exactions des forces de police. Il y a eu des étrangers qui étaient là pour faire des reportages qui se sont fait expulser quand même de la région et du Mexique au début de la grève, de toutes les actions de résistance à l'État mexicain. Mais là, on n'en avait pas parlé. Il a fallu attendre...
Un journaliste américain qui s'est fait dessouder.
Voilà, enfin, des choses comme ça pour que ça réagisse. Donc voilà. Mais ça fait encore la une du monde, donc c'est plutôt pas mal. Toujours dans le monde, on nous parle du projet de loi. Alors c'est un petit peu à la mode aussi sur France Intox ce matin, pour ne pas les citer. Le gouvernement veut renforcer, soi-disant, la protection des consommateurs avec la transposition en droit français de ce que les anglo-saxons appellent les class action. Donc c'est des groupes de consommateurs qui peuvent se mettre ensemble... qui sont victimes d'un même préjudice venant d'une entreprise, qui se mettent ensemble pour faire une action en justice contre cette entreprise. Alors aux États-Unis, enfin dans les pays anglo-saxons, ça marche très très bien. Ça permet justement de redonner un peu de poids aux citoyens face aux multinationales. Sauf que le projet de loi française défendu par Jacques Chirac, qui en avait parlé dès 2005, est un projet un petit peu mou. C'est ce que nous rappelle l'article du Monde, puisque seules les associations de consommateurs pourront se pouvoir en justice. Donc déjà, ça limite beaucoup ce qu'il peut y avoir comme action en justice. Qu'il y a des sommes plafonnées à 2000 euros, que ça ne doit pas concerner les dommages écologiques. Enfin, il y a plein de choses qui sortent de ces class actions. Et finalement, c'est quelque chose qui est pour l'instant plus de l'ordre du symbole que d'une réalité d'attaque du monde industriel et de ses travers. Ce qui n'empêche pas le MEDEF de réagir fortement en disant « c'est inadmissible, on nous attaque, ça va coûter ». Alors le MEDEF, dans le Monde, dit que ça va leur coûter 18 milliards d'euros, ces actions en justice. En dommages, eh ben, s'ils ont 18 milliards d'euros de dommages, c'est qu'ils ont fait 18 milliards d'euros de dommages. Il faut quand même voir ça. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le Monde. Alors, il y a bien sûr pas mal d'autres choses. Et puis, il y a un article très intéressant sur les déchets électroniques. Qui est plutôt bien fait. On nous explique un peu dans un ordinateur tout ce qu'il y a, tout ce qu'on retrouve. Alors ça fait très très peur. Hein. Par exemple, il y a du cadmium et on nous dit le cadmium a des effets irréversibles sur les reins, les cancers, déminéralisation du squelette. C'est ouais, bon. Quand on y cite les trucs, on va jeter notre ordinateur, Eric, hein, tout de suite. Donc voilà, ils expliquent que la majorité des déchets sont exportés dans les pays pauvres, notamment en Afrique, où des gens, des travailleurs, essayent de récupérer les parties réutilisables. Donc ils font fondre les éléments, sans se protéger, ils respirent des matières toxiques. Enfin voilà, c'est la catastrophe, les gars. C'est ce que nous dit le Monde et c'est plutôt pas mal fait.
Puis finalement, il est très bien ce journal alors.
Non, mais il y a toujours des trucs pas mal. Non, mais voilà. Et puis, pour garder quand même le meilleur pour la fin, il existe des journaux qui résistent à cette droitisation quand même de la presse. Et on peut quand même citer le Canard Enchaîné qui résiste encore et toujours. Hein, qui est d'ailleurs un des rares journaux totalement indépendants. Je crois qu'ils sont 3 les journaux indépendants. C'est-à-dire ne dépendant pas du monde économique puisqu'ils n'ont pas de publicité. Soit remplacé par des dessins. Alors, il y a plein de choses dans le Canard Enchaîné, comme d'habitude. Je ne vais pas trop durer longtemps, parce que sinon, on va me dire, attention, il ne reste plus de place pour le reste de l'émission. Il y a quand même les mises en scène du gouvernement qui sont mises en avant. Donc là, ça s'appelle Copé fait tilt. Donc Copé, c'est le ministre du budget.
Du budget.
Oui. Du budget. Hein. Donc François Copé, qui est allé il y a quelques jours dans un bar pour jouer au flipper. Parce que c'était la mesure phare pour compenser la diminution du chiffre d'affaires que vont avoir les bars tabac suite à l'interdiction de fumer dans ces lieux-là. Il leur a dit, on vous installe des flippers, vous payez 5 euros par an, c'est tout. Et il est allé dans un bar, il a joué aux flippers. Ce qui est drôle, c'est que ils ont pris la photo du bar 2 jours après, il n'y avait plus le flipper ni le babyfoot. Donc c'était un énorme montage. Et ils avaient fait ça, Thierry Breton avait fait pareil quelques semaines avant avec une fausse station-service où ils avaient rajouté une pompe pour donner du biocarburant et la pompe avait été démontée dans la foulée parce que c'était juste un truc publicitaire. Donc voilà, nos hommes politiques mentent et font de la publicité. Donc il y a des photos dans le Canard Enchaîné. Alors il y a plein d'autres choses dans le Canard Enchaîné. Je vais terminer par... il y a des seins nus dans le Canard Enchaîné, c'est pas tous les jours, mais c'est pour montrer ce qui se passe dans France Soir qui a l'air d'être un journal journal de mieux en mieux. Hein, ça ressemble beaucoup à la presse anglaise. Et puis voilà, juste pour dire, il nous rappelle quand même que dans l'agroalimentaire, tout va pas très bien. Le lobby du sucre avait fait une grosse campagne d'affichage et dans la presse écrite contre les faux sucres, donc tout ce qui peut remplacer le sucre. La campagne était assez agressive et bah voilà, il y a des pressions des syndicats des additifs de l'agroalimentaire, de Nestlé et autres, et bah, ils retirent leur campagne. Donc voilà, c'est pour dire que même quand entre eux, les géants de l'agroalimentaire s'attaquent un petit peu, et ben vite ils sont rappelés à l'ordre par leurs collègues et ils arrêtent aussi tout de suite leur campagne. Donc voilà.
Bistan brûle écoute.
Eh bien merci beaucoup Laurent pour cette chronique qui fait du bien face à une face à une toute autre objectivité qu'on peut entendre sur d'autres radios. Il est de bon ton parfois de rééquilibrer les choses. Ouais. Merci beaucoup Laurent. On va passer à l'invité. Alors l'invité, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas physiquement dans les bureaux de Radio Canu, puisqu'en ce moment il doit être au sommet du Larzac.
Il est sur ses plateaux du Larzac. Il fait un élevage laitier sur le plateau du Larzac. Et donc on avait envie de l'inviter parce qu'il est passé en procès à Vienne vendredi passé. Suite à une action qui a été menée il y a 2 ans de ça dans une usine Danone dans l'Isère à Saint-Just-Chalais-Saint. Donc il va nous raconter tout ça. C'est une liaison téléphonique que nous avons eue hier matin.
Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez
pas. J'écoute.
Bonjour Jean-Émile Sanchez.
Oui, bonjour.
Tu es militant syndical, tu es paysan.
Oui, je suis militant de la Confédération paysanne et paysan sur le plateau du Larzac, dans l'Aveyron.
Tu as un petit peu défrayé la chronique récemment, donc tout près de chez nous, tout près de Lyon, au tribunal de Vienne. Tu es donc passé en procès le vendredi 27 octobre,
oui.
Suite à une action collective qui s'était passée il y a 2 ans, je crois.
Oui, au mois d'octobre 2004, à Saint-Just, dans la Vienne, en Isère, pardon.
Saint-Just-Chalais-Saint, je crois.
Voilà, c'est ça, voilà. Okay.
Alors, est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur l'action qui a été menée?
Sur l'action, oui. Ouais. À cette époque-là, 2004, on était dans une politique de baisse du prix du lait, et on y est toujours d'ailleurs 2 ans après. Mais à cette époque-là, on était à la 10e ou 12e baisse du prix du lait consécutive chez les producteurs, lait de vache. Et donc, en faisant un calcul, on s'était aperçu que ces baisses du prix du lait correspondaient à 27 jours de lait non payé chez les producteurs. Donc, si on veut résumer et faire un parallèle avec le monde salarié, c'est un mois de salaire qui n'était pas payé à un ouvrier, par exemple, et donc là, à un paysan, puisque ce lait n'était pas payé à partir de la baisse du prix du lait. Donc, on s'est dit, il n'y a pas de raison que ce lait soit vendu par les industriels puisqu'il n'a pas été payé. Donc ça, tout symboliquement, on a été se réapproprier une partie de ce lait, donc en l'occurrence chez Danone, à Saint-Just, sous forme de dessert, de fromage et ainsi de suite. Et plutôt que, comme le fait d'autres syndicats agricoles, d'autres syndicats agricoles de détruire la marchandise, nous avons redistribué cette marchandise dans des quartiers populaires, à Vénissieux, à la cité Léo Lagrange. Pour bien faire le parallèle aussi, de dire, à partir de ces conditions économiques qu'on impose aux paysans, on exclut des paysans de leur métier, de la production. Et avec le prix pratiqué à la consommation, on exclut aussi des gens de l'accès à un bien alimentaire, à savoir des produits lactés. Donc c'était pour montrer aussi le fait que le lait baissant à la production, des gens continuaient à augmenter leur marge entre le producteur et les consommateurs, et que en rien cette baisse du prix du lait n'était répercutée au prix d'achat pour les consommateurs.
Et comment, au niveau de, par exemple, du lait, comment ça se passe en fait? Il y a un organisme officiel qui fixe le prix ou c'est simplement le marché qui
voilà, il y a une interprofession dont la Confédération paysanne est soigneusement écartée, hein, donc qui représente uniquement la section spécialisée des producteurs de lait de la FNSEA, donc le syndicat dit majoritaire en France depuis 60 ans. Les industriels privés et les industriels du secteur coopératif. Et donc, ces gens-là se réunissent 3-4 fois par an et en fonction, justement, de la conjoncture du marché, fixent des recommandations sur le prix du lait. Et donc, depuis 2001, on est dans la situation de baisser le prix à la production dans un seul but, bien sûr, continuer à augmenter les marges de l'agroalimentaire, de la grande distribution, de rémunérer encore un petit peu plus les dividendes des actionnaires, hein, puisque je rappelle que sur le seul secteur laitier Danone, en 4 ans, l'action est passée à, je crois que c'était 0,90 euros, et là maintenant elle est à 1,70 ou 1,80 quoi. Donc on voit qu'il y a une belle progression quand même, presque un doublement en 4 ans sur le secteur laitier, mais bah, une fois de plus, ceux qui servent de variable d'ajustement sont les producteurs, comme peuvent être les ouvriers dans certaines entreprises qui pratiquent les licenciements boursiers.
Mais il y a eu une manifestation qui s'est déroulée devant le tribunal et puis toute la journée en soutien à cette action.
Voilà.
Il y a eu un appel au droit aux revenus paysans ce
jour-là.
Voilà,
puisque pour l'instant, une des particularités de notre métier, c'est que nous n'avons pas la reconnaissance de ce droit aux revenus à partir de notre travail. Hein, on sait que la politique agricole, depuis de nombreuses années, a suivi, a même impulsé cette politique de baisse du prix à la production pour gagner des parts de marché au niveau international. Et donc, il a fallu donc baisser ses prix à la production et compenser avec des aides. Et en fait, ces aides compensent que partiellement la baisse des prix à la production. Et on se retrouve dans une situation où presque 50% des paysans n'atteignent pas le SMIC comme rémunération mensuelle. Donc pour nous, c'est bien la revendication fondamentale de l'accès au droit au revenu à partir de notre travail, donc à partir de prix en capacité de rémunérer ce travail paysan, mais aussi avec une réflexion de dire il ne s'agit pas pour nous de dégager un revenu et que nos produits ne soient plus accessibles à de plus en plus de gens à la consommation. Donc c'est aussi une grande réflexion globale qu'il y a sur ce droit au revenu. C'est pour ça que la journée de vendredi était largement soutenue et appelée par un certain nombre d'organisations, de précaires, de chômeurs, syndicales, de salariés, pour exiger ce revenu pour toutes et tous.
Comment tu envisages en fait le rapport au changement, justement, par rapport au revenu paysan, par rapport à la pression
des... Mais je crois que ce qui a été un point fort de la journée de vendredi dernier, c'est justement cette capacité de lier les combats, les réflexions et les revendications. Et ce qu'on avait fait dans notre action, hein, le fait de redistribuer à un moment donné sur des quartiers défavorisés ou populaires, c'était bien de montrer cette situation dans laquelle se trouvent des gens en termes d'accès aux biens alimentaires et des gens qui se trouvent en difficulté par rapport à l'accès à un métier, en l'occurrence celui de paysan, puisque pas de revenus à partir de cette activité-là. Donc si on est en capacité de continuer à mettre ces revendications et ces réflexions en commun, on va être en capacité de créer un vrai rapport de force vis-à-vis du poids économique que représentent l'agro-industrie et la grande distribution. Alors, à partir de la construction de ce rapport de force, il faut aussi que ça se traduise en décision politique. On va arriver où on est déjà dans une situation de pré-campagne électorale, puisque 2007... présidentielle et législative oblige, nous allons bien sûr faire un travail important d'information et de pression sur les gens qui briguent la capacité de nous représenter dans les instances politiques de décision. Donc là, on est bien dans une situation de choix politique aussi, et de dire le monde politique doit reprendre l'initiative devant la sphère économique.
Donc il y a la politique au niveau, à une échelle nationale ou internationale, mais quid des initiatives plus individuelles? J'ai par exemple un regroupement de producteurs à Vitrolles, je crois, qui s'est installé carrément sur une zone commerciale tout près d'un carrefour en disant ils nous achètent nos salades 10 centimes, si nous, si on leur revend 50 centimes, on peut faire du produit moins cher pour les populations. Que ce soit en plein milieu de quartiers populaires, on peut faire des produits moins chers pour des populations qui ont des faibles revenus, tout en court-circuitant le circuit commercial.
Alors après, il y a des gens qui ont des initiatives ou individuelles ou collectives, comme tu viens de le rappeler, pour justement montrer qu'il y a une possibilité d'organiser autrement et la production et la distribution de ces produits alimentaires sans qu'on arrive arrive à des situations d'exclusion de gens par rapport à l'alimentation et de gens par rapport à un travail. Donc ça, c'est des expériences qui sont très intéressantes, mais qui, pour moi, s'il n'y a pas un changement fondamental de politique agricole et de politique économique et de politique sociale, ne resteront qu'au stade d'expérience. Donc je crois que les deux sont absolument essentiels, mais on est bien sur un combat politique, et quand je dis politique, c'est au sens large du terme et non pas politico-politicienne, de changement de situation en termes de politique agricole, de politique économique, de politique sociale, et ainsi de suite.
Pour finir, peut-être qu'on peut revenir sur... sur le procès de vendredi, donc
oui.
comment ça se dessine donc pour la suite quoi au niveau
bah, donc ça a été mis en délibéré au 22 décembre, donc on aura la réponse le 22 décembre. Le procureur de la République s'est retrouvé un petit peu seul dans cette histoire, puisque Danone avait s'était retiré de la procédure 2 jours avant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de victimes dans ce procès. Danone ne demande aucun dommage et intérêt. Bon, non pas parce qu'il partage notre combat, mais plus il a dû faire une analyse assez rapide de dire en termes de communication et d'image, c'est pas très bon, sachant que la veille sur Lyon, il y avait cette réunion pour une autre mondialisation, je ne sais plus exactement le thème, l'intitulé de la réunion, dont M. Ribou, président de Danone, était présent. Donc, bon, on comprend bien que les motivations qui ont fait qu'ils ont retiré leur plainte. Donc le procureur se trouvant un peu seul, s'est senti obligé de mettre un petit peu d'eau dans son vin, à mon avis, dans son réquisitoire, en demandant, ce qui est quand même assez lourd quand même, 4 mois de prison avec sursis et 18 mois de mise à l'épreuve. Je pense que si Danone avait été là, on aurait eu un réquisitoire qui aurait demandé de la prison ferme, puisque j'ai déjà des condamnations pour d'autres actions. Et donc il s'est bien gardé de le rappeler pour justifier le fait qu'il ne pouvait plus demander du sursis simple, dont ce qui explique les 18 mois de mise à l'épreuve. Donc bon, maintenant on verra si à partir de ce que j'ai pu exprimer dans le tribunal et les témoins, la présidente a compris le sens de notre combat et compris surtout la situation dans laquelle se trouvaient les producteurs de lait en particulier et les paysans en général. Donc pour moi, s'il n'y a pas ou une relaxe ou une dispense de peine, ça sera une décision politique et non pas une décision de justice.
Très bien. Eh bien, on se tiendra au courant du résultat et puis de la campagne pour le droit au revenu lancée par la Confédération paysanne, voilà. Et soutenue, il m'a semblé,
par beaucoup d'associations, de syndicats, de citoyens. Là on est dans une situation où on est sur une revendication vitale pour des millions de gens. Je rappelle qu'il y a 7 millions de travailleurs pauvres en France.
Eh oui, la lutte continue.
Voilà.
Eh bien, Jean-Milton Chaise, merci beaucoup
pour
cet appel. Et à très bientôt, j'espère.
À très bientôt et bon courage.
Merci,
au revoir.
Piston brouille l'écoute.
Il embrassa sa femme au front, puis il monta dans son grand carrosse doré et s'enfuit. Il embrassa sa femme au front, puis il monta dans son grand carrosse doré et s'enfuit.
Et c'est l'heure de la chronique de Renaud Pierre.
Alors, pas exactement une chronique aujourd'hui, plutôt petit texte écrit que j'avais écrit comme ça suite à la projection d'un film de Simone Bitton qui s'appelle Le Mur et que j'avais trouvé très intéressant. Et voilà. Et comme en Palestine, le mur se construit, symbolique celui-ci, quoique, entre ceux qui ont et flippent et ceux qui n'ont pas. D'un côté du mur, on évolue à l'aise, on passe de sphère en sphère, on se déplace et on se prétend sans racine. On est prisonnier de nulle part, éternel voltigeur, planant au-dessus des situations et des opportunités. On fait sa vie et ses petites affaires, on construit ses vies, on a plein de choses à faire. Tout choix se mesure pragmatiquement, on n'est dépendant de rien ni de personne. Pour nos enfants, on contourne la carte scolaire, joyeux acrobate de la bonne hémisphère. De l'autre côté du mur, on rouille, on s'agresse, on fait des tours du parking. On se prend par la main pour descendre en ville et dès qu'on passe le mur, on est repéré par les physionomistes virtuels qui surveillent le doux jardin des planeurs. À Châtelet, il faut remettre son ticket pour passer le checkpoint, et la sécurité fait le guet. Si, malgré tout, les capuches passent quand même, elles ne font que tourner autour du forum sans trop s'en éloigner, pour ne pas rater le dernier convoi qui nous replante au pied des tours. Le mur du containment est partout. Mur de la bonne parole, de la bonne pensée, du bon look et de la bonne mixité de groupe. Mur de l'intonation, de l'accent et surtout mur que se met celui qui ne se sent pas dans son bon droit d'être là et qui se dit que le seul fait de descendre à Paris est déjà en soi une connerie. Et il hante les wagons du convoi qui en amène d'autres plus loin que les tours, dans une autre richesse reliée à la ville par un fil invisible. Et il sait que sa place est dans cet étau entre la ville et la deuxième couronne. On parle fort avec ses potes, on cherche désespérément un truc qui provoque, faire à un moment une petite fissure, une balafre dans le mur. En ville, il y a de beaux appartements, de l'autre côté, il y a de belles villas avec du gazon, entre les deux, il y a sa place qui porte le nom de quelques stations. Et on se développe dans cette évidence sans qu'aucune parole jamais ne puisse faire sens, et chacun de ses actes vient se ramasser, entretient l'évidence et donne des arguments aux promoteurs du mur.
Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez
pas. J'écoute.
Allô, j'écoute. Bonjour, colonel.
Allô. Ça va?
Ouais, est-ce que tu nous entends?
Oui, 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 je vous entends.
Ah, c'est parfait.
C'est parfait, là. Techniquement, très au point, cette fois.
Alors, comment vas-tu aujourd'hui?
Eh ben, ça va. Je démarre doucement cette journée.
Doucement.
Vous êtes déjà sur le pont depuis plusieurs heures à préparer cette émission merveilleuse, non?
Ouais, sans doute. Mais tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui.
Laquelle?
Qui va te remonter le moral. Hier, tu te plaignais de la réduction du temps consacré à notre chère Radio Botu. Donc aujourd'hui, on s'est dit, tiens, on prend sur nous, on est prêt à affronter toutes les colères de la programmation de Radio Canu, mais on va déborder. On va déborder, on va dépasser un petit peu et on va prendre le temps de passer un reportage que tu nous avais soumis dans tes propositions de programmation.
Ah, un reportage d'Olivier, donc vous passez...
Voilà, on va passer celui-là.
Très bien, parfait.
Donc le reportage sur contresens, quoi, comme tu nous avais proposé deux choses.
Ouais.
Donc voilà, peut-être que tu peux nous dire un peu comment c'est arrivé, là, ce sujet est arrivé sur les ondes de Radio Potu.
Bah, il est arrivé simplement parce que au festival des Nuits de la Pierre Bleue, il y avait quand même la rencontre de gens qui aimaient faire de la radio, de gens qui aimaient faire la cuisine, qui aimaient manger, qui aimaient les bons produits. Et nous là-bas, bah, on avait rencontré Axel, et à travers Axel, c'est toute l'équipe de l'autre côté du pont, et donc leur association Contresens, voilà, qui propose de faire à manger autrement. Et du coup, bah voilà, Olivier, dans ce cadre-là, avait eu l'occasion de les rencontrer avant, avait bricolé un petit reportage sur eux et qu'on a passé donc à l'occasion de Radio Potu.
D'accord, bah écoute, on va s'écouter ça vite fait parce qu'on ne va pas non plus déborder plus que ça.
Ouais, voilà.
Et on se dit à demain, puis on attend toujours impatiemment ta venue samedi directement dans les studios de Canu.
Voilà, c'est ça, samedi en direct, quoi, sans téléphone.
Eh ben, c'est parti, mon grand. À
bon reportage, alors, ciao.
Ciao.
Radio Potu, 107.5.
Histoire de producteur et de consommateur, du producteur au consommateur, du producteur au consommateur.
Alors, je suis Romain, donc de l'association Contresens. C'est une asso qui fait de la production musicale ou de spectacle d'un côté, et qui fait aussi beaucoup de bouffe dans des festivals et dans des événements culturels de Lyon et des environs. Et qui en tire pas mal de bénéfices qui servent justement à payer la partie production de spectacle. C'est une asso qui est née à peu près en même temps que le bar de l'autre côté du pont, les deux structures étant très liées. Au départ, elle avait pour vocation de faire s'occuper justement de la production artistique du bar et d'être un peu tournée vers l'extérieur. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes parce que le bar s'est rendu compte qu'ils arrivaient à dégager assez de bénéfices pour produire eux-mêmes des spectacles. Contresens s'est un peu plus focalisé sur sa partie militante, contact avec les autres assos, prise de terrain dans le quartier de la Guillotière, etc. Et puis plein d'autres festivals. Donc si on s'appelle Contresens, c'est aussi pour aller à contre, courant des fonctionnements d'une part de distribution de bouffe, qui est le premier bien de consommation courante, d'autre part de production de spectacles, qui sont deux domaines. On aurait pu en prendre plein d'autres, mais il se trouve que ces deux-là, on est bien placé pour les défendre. C'est deux domaines qui sont assez révélateurs des dérives un peu du système libéral aujourd'hui, quoi. Dans la distribution, les problèmes, on les connaît bien. C'est des problèmes de qualité, des problèmes de rémunération des producteurs. Voilà, tout ce qui concerne les intermédiaires qu'il peut y avoir entre un producteur et un consommateur. Tout ça, c'est des problèmes qu'on essaye d'éradiquer avec un fonctionnement autonome, un peu... ouais, ça, c'est très autonome, quoi, de distribution. Et même, on fait la cuisine, quoi. Donc, on achète à des producteurs sur des circuits les plus courts possibles. On choisit les produits pour leur qualité et pour les critères aussi environnementaux, etc. Et on s'adresse à des consommateurs en direct. Après, il y a peut-être un petit déficit de communication, comme on dit souvent en ce moment. Parce que les gens ne sont pas forcément au courant dans les événements où on est présent, qu'ils mangent des produits fermiers, des produits éventuellement bio, en tout cas locaux, etc. Et issus du commerce équitable aussi. Mais ça a le mérite déjà de faire marcher cette économie-là, au moins pendant un temps, et d'en faire parler, en tout cas dans les milieux associatifs. On est reconnu pour ça, quoi.
Du producteur au consommateur.
Pour la musique, c'est un peu pareil. Enfin, la musique, je dis la musique parce que la plupart du temps, c'est des spectacles musicaux, donc des concerts qu'on produit. Contresens, c'est aussi une structure qui a eu l'idée de prendre pour principe fondateur de payer tous les artistes au cachet intermittent, artistes et techniciens, alors que c'est une pratique peu répandue, voire pas du tout répandue, et que... la rémunération des artistes, c'est un peu comme on peut. Il n'y a pas de règles strictes là-dessus et souvent c'est vraiment au rabais, quoi. Bon, tout ce qui concerne les festivals et les concerts dans les bars, c'est systématiquement sous-payé, quoi, par rapport à ce que ça devrait, quoi. Sinon, les plans bouffe, c'est une intervention de contresens. On vient, on fait de la restauration pour le public de temps en temps, sinon souvent pour les bénévoles et artistes organisateurs de festivals. Et puis les buvettes, quoi. Les buvettes, ça marche super bien. C'est souvent là qu'on fait rentrer aussi le plus de sous dans la cagnotte. Voilà, on marche avec des brasseurs de bière artisanaux, du bon vin, des bons jus de fruits du coin, etc., quoi.
Mamselle, bière, toutes les fêtes dans mon verre. Fais du crâne jusqu'à plus soif, fais polir que je me laisse bien faire.
Et ben, en ce moment, par exemple, on va partir sur le festival Summertime. Le festival Courant d'Art qui va se dérouler un peu dans des bleds de la campagne, pas trop loin. On est présent, un petit peu présent, donc sur les pierres bleues.
Bon, qu'est-ce que tu fais là, Axel ?
Non, je découpe le flan de carotte à quoi déjà ? Je m'en souviens plus si c'est du thym. Au basilic, excuse-moi, je découpe le flan de carotte au basilic pour tout à l'heure.
Yes. Donc toi, t'es le cuisinier des pierres bleues ? Cuisinier officiel, le chef.
Ben ouais, c'est ce qu'ils se disent, mais c'est moi qui fais la cuisine pour le festival, ouais. Qu'organise un peu les plats, et puis j'essaye de faire la cuisine exclusivement avec les produits des fermes dans lesquelles on va.
Voilà. Okay. Alors tu peux nous raconter un peu comment se passe ta journée ?
D'accord, ben nous on se lève entre 8 et 9. Après on se répartit en deux groupes, mais vu qu'on est deux, c'est pas très compliqué, souvent le matin entre 8 et 9. Donc moi en général je passe des coups de téléphone aux producteurs tous les matins pour aller récupérer des produits. Pendant que la deuxième personne, ça dépend qui c'est, ça n'a pas toujours été la même depuis le début, ben, fait la vaisselle de la veille en gros. Donc nettoie tous les plats qu'on a servis la veille. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire tous les matins après le déjeuner. Ensuite, en fonction des producteurs et de ce qui nous reste dans les frigos, ben, soit on va tout chercher chez les producteurs. Donc on prend la voiture et on fait le tour des Monts du Lyonnais. Genre, en général, tous les jours. Non, on essaye de pas le faire tous les jours. Mais en tout cas, tous les jours, moi je suis obligé de passer entre une demi-heure et une heure au téléphone avec les producteurs pour pouvoir leur passer les commandes. Parce que vu que c'est que des petits producteurs, c'est pas tous les jours facile pour eux de pouvoir servir pour 80 ou,
ou 100 personnes en fait.
Tu commandes au jour le jour en fait ?
Non, j'essaye de prévoir sur 4-5 jours, mais c'est pas facile parce qu'on a eu des gros problèmes de chambre froide. En fait, il n'y a pas de chambre froide chez Noël. Et du coup, moi, j'avais prévu sur une semaine. Et puis, tout ce que j'avais prévu au-delà de 3 jours, ça a pourri, quoi. Donc, il y a eu les épinards, il y a eu les salades. Donc, du coup, j'essaye de prévoir sur 2 jours, en fait. Voilà. Et là, je vais chercher un deuxième plateau à découper. Vas-y. Il y a 5 plateaux de flan pour faire 150 parts de flan. Donc, en gros, 130 pour ce soir. Et 20 pour le midi des bénévoles demain.
Après la petite balade dans les monts du Lyonnais à la recherche des produits chez les producteurs, ta journée, on arrive vers midi là ? Non ? Vers 11h ?
Ouais, on arrive plutôt vers 11h. Ben, en général, quand j'ai des choses à aller chercher, donc, ben, au début c'est moi qui y allais, maintenant on est plusieurs à y aller. Ceux qui restent à la maison de Noémie, eh ben, ils commencent les premières découpes, donc découper les légumes, éplucher les courgettes par exemple, ou éplucher les carottes. Ça, c'est un truc qui est souvent assez long parce que pour 100 personnes, une quinzaine de kilos de carottes à éplucher, ça prend quand même 1 heure à 2, par exemple. Donc voilà, et puis après, on se retrouve à 11h donc, avec les légumes qu'on a ramenés de chez les producteurs et les légumes qui ont été préparés le matin même à la maison. Donc après, en général, on essaye d'organiser la journée, je dirais. Donc il y en a qui continuent à faire des découpes avec les légumes qui viennent d'arriver. Puis moi, j'essaye un peu d'imaginer la mise en place qu'on va faire le soir même, ce qu'il y aura dans les assiettes, les couleurs, des trucs de cuisinier, enfin, je sais pas, des trucs pour essayer de faire un peu l'assiette jolie. Donc ça, j'essaye de le faire avant le repas. Et en fait, on arrive assez rapidement au repas vers 1h, 1h30. Et si on a le temps, comme aujourd'hui, on essaye de lancer déjà des cuissons le matin, parce que le four de la maison de Noémie, c'est pas un four pro. C'est vrai que pour 100 personnes, ça met souvent longtemps à cuisiner. Voilà. Puis après, on se retrouve au repas. Et puis, une fois qu'on a passé le repas, bah, c'est 14h30, 15h. Et puis, c'est là où tu as tous les légumes découpés. Et puis voilà, tu prépares, quoi. Soit tu broies, tu mixes, tu haches. C'est là que tu fais toutes les préparations, quoi. Une fois que tous tes légumes ils sont prédécoupés, ta viande, tout ça, t'arrives, hop, c'est l'assemblage, quoi. Et l'assemblage, ça dure 2, 3, 4 heures en fonction de ce qui est assemblé et comment. Aujourd'hui, par exemple, ça n'a vraiment pas pris longtemps parce que des flancs de carottes, c'est des carottes râpées avec un mélange d'œuf et de lait, quoi, en gros, et du basilic.
Du coup, l'après-midi, moyen de faire une petite pause quand même, de se reposer un peu ?
Bah écoute, depuis mardi dernier, je crois que hier... Non, aujourd'hui, c'était ma première pause. J'ai eu le temps de me doucher dans l'après-midi. Donc voilà,
bravo l'hygiène du cuisinier, au bout de 10 jours.
j'ai eu le droit de me doucher aujourd'hui dans l'après-midi. C'était la première fois que j'avais une pause depuis mardi dernier. Et c'est vrai qu'on a des journées qui sont monstrueuses parce que entre 9h le matin, en plus, il faut plus ou moins prévoir la bouffe pour les bénévoles le midi. Et puis derrière, le service, il a 8h. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est d'organiser tout ça. Quand t'as pas du matériel professionnel, t'as pas de chambre froide, t'as pas de four, de compétition, enfin les trucs comme ça, c'est clair que tu doubles, voire triples ton temps de travail, et ça c'est ça qui a été un peu difficile à vivre, quoi, sur la première semaine. Mais là, je me suis arrangé pour avoir des menus qui se font vite et qui se mangent froid, donc ça enlève beaucoup de problèmes. Bon, sauf si on considère la question du barbecue comme hier.
Donc du coup, on était dans l'après-midi à la pause. Après, comment se déroule la suite de ta journée ?
Bah, la suite de la journée, c'est on prépare les plats pour les amener, donc on met tout ça sous le chapi, on embarque tout ça dans le camion de Luc, et direction la ferme où on fait l'installation quand on arrive sur place, c'est-à-dire la mise en place des assiettes et le service, en gros, quoi. Enfin, nous on fait que la mise en place, le service normalement il doit se faire tout seul. Ça se passe pas toujours comme ça, mais normalement une fois que tu fais la mise en place, t'as pas le temps de faire autre chose déjà. D'être 3 pour faire la cuisine pour 100 personnes en produits frais, ça prend déjà du temps, toutes les découpes, tout ça. Donc c'est vrai qu'on arrive sur place, c'est la mise en place et le service, les gens se servent. Pendant que nous, on prépare les desserts en fait, normalement. Donc on fait la découpe des desserts et une fois qu'ils ont mangé leur dessert, bah, il ne reste plus que la vaisselle. Donc une partie le soir et puis beaucoup le lendemain matin en fait. Voilà.
Et la journée est bouclée, non ?
Et la journée est bouclée, ouais, c'est ça.
Tu disais du flan de carottes pour 150 personnes, du coup ça représente combien de carottes à éplucher, quoi ?
en nombre de carottes, je sais pas, si tu prends que sur un kilo de carottes, il y a une trentaine de carottes. Moi, je dis ça complètement au pif parce que je suis très mauvais pour ça.
Un peu moins, peut-être.
Peut-être un peu moins. Ouais, tu vois, tu sais aussi bien que moi. Bah, ça fait 15 kilos à éplucher, donc... Ça prend une... Là, ce matin, on a pris plus d'une heure à trois, je crois, à éplucher les carottes. Ouais, ça a pris beaucoup de temps. Voilà, moi j'ai un bar, on a un bar à Lyon qui s'appelle de l'autre côté du pont, on essaye de travailler avec les circuits courts. Donc ça c'est sûr que là sur le festival, la notion de circuit court elle est fantastique parce que c'est vraiment du direct avec les producteurs, je les ai tous rencontrés, ils ont des méthodes de travail qui sont vachement intéressantes. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec des bons produits, tu sais d'où ils viennent, tu connais les gens. Enfin voilà, derrière les carottes, t'as des sourires et tout. C'est ça qui est bien quand tu, dans la notion de circuit court, être direct avec le producteur, c'est hyper agréable de se retrouver comme ça face à eux et de pouvoir discuter avec eux, de confronter les points de vue sur les cuisines, sur les engrais, sur la manière de travailler en la décroissance, des trucs comme ça quoi. On est présent, un petit peu présent donc sur les pierres bleues. Voilà, on est très présent sur les dindes folles aussi depuis donc c'était la troisième édition cette année, début du mois de juin. On a un festival à nous qui s'appelle le Festival Sous la Stabule, qu'on co-organise avec un groupement d'agriculteurs en bio dans une ferme. Pas mal de choses qui se passent à la guille. En général, on est systématiquement informé et on essaye d'être présent sur tout ce qui se passe à la guillotière. Donc en ce moment, c'est tous les mardis les fêtes de la guille, la guille en fête. On va faire un petit pique-nique avec l'Arche de Noé également, des trucs éducatifs pour les gamins avec des jeux justement sur les goûts à reconnaître dans les boissons, des trucs comme ça.
Vous n'avez jamais bossé genre pour des institutions, genre il y a par exemple la mairie qui vous appelle pour faire un truc?
Ça nous est arrivé rarement et à chaque fois c'est des sujets de discussion en fait. On a toujours tendance à vouloir être radicaux dans nos choix et à pas trop travailler avec la ville de Lyon, ce genre de structure. Parce qu'on considère que le genre de politique qu'on prône nous, c'est pas les politiques que prône la ville de Lyon ou des institutions de ce genre-là, et que faire appel à nous, c'est aussi une façon de dire, de revendiquer un contact, une implication dans la vie associative lyonnaise qui est un peu une façade et finalement qui correspond pas à une vraie réalité, quoi. L'implication, on en attendrait beaucoup, beaucoup plus de la part des pouvoirs publics, quoi. C'est toujours évidemment sujet à discussion parce qu'on veut pas se couper non plus d'un public qu'on pourrait aller chercher. Voilà, c'est une problématique, je pense, qui est très 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 banale. Soit être radical et tourner en rond et toucher toujours un peu les mêmes gens qui sont déjà déconvaincus, ou alors essayer de s'agrandir, toucher plus de gens et prendre le risque de se compromettre. Bon voilà. C'est comme pour la pub, on en fait très peu en fait, on a très peu de communication, et d'un côté c'est une espèce de petite fierté à contresens, et d'un autre côté ça nous joue des tours parce que on se rend compte que y a plein de gens qui bouffent ce qu'on leur fait à bouffer, ou même qui parlent de nous et qui savent pas exactement ce qu'est contresens et les valeurs qu'on défend, quoi. Voilà.
Biston Boy, l'écoute.
Voilà, un petit peu plus de temps effectivement consacré à Radio Potu aujourd'hui. Radio Potu, c'était donc la radio éphémère du festival Les Nuits de la Pierre Bleue, que l'association La Voisine, le groupe Bistanclac, organise au début de l'été dans les Monts du Lyonnais. Voilà, donc comme c'est une radio temporaire sous la haute direction, enfin non plutôt bon, sous la, disons, la haute préparation du colonel Moutarde, que nous avons retrouvé tout à l'heure, mais avec toute une équipe, dont fait partie notamment Laurent aussi, qui est venu aujourd'hui faire la revue de presse. Donc c'était le pendant rural de Bistan Brouille l'écoute. Voilà. Alors Bistan Brouille l'écoute, ça continue en tout cas jusqu'à samedi, tous les matins de 9h à 10h. On peut rappeler aussi le programme de la semaine de La Voisine. Hier, il n'y avait pas grand monde, hein. C'était peut-être parce que c'était la Toussaint, il n'y avait pas énormément de monde pour voir le film de Florence Mietto, qui est pourtant un film
vraiment très très, très bien, ouais.
très bien, très intéressant. Voilà, enfin en tout cas ça s'est bien passé avec les quelques personnes qui étaient là, on a eu une discussion très intéressante à l'issue du film. On espère qu'il y aura plus de monde ce soir pour la bouffe italo-lyonnaise que nous prévoyons. Donc ce soir, Beast en claque passe derrière les fourneaux. Donc si vous êtes un petit peu curieux et aventurier, vous pouvez venir goûter à notre cuisine. Ce sera à l'autre côté du pont. Voilà, il n'y a pas de réservation, mais venez assez tôt, peut-être vers 7 heures, c'est annoncé, pour qu'on ait le temps de boire l'apéro. Voilà, demain, ce sera le spectacle Napoléon avec nos amis napolitains qui sont arrivés hier soir et avec lesquels nous présenterons donc des chansons italo-lyonnaises avec aussi Yael Epstein. Enfin voilà, on est plusieurs et on va vous chanter des chansons. Ça partira du pont de la Guillotière en gros et ça va jusqu'au Vésuve. Et samedi, un bal italo-lyonnais avec des tapas, avec une initiation à 7h aux danses folk et notamment italiennes. Voilà, et c'est comme ça que se finira cette semaine La Voisine pousse les murs. Merci beaucoup à Laurent de nous avoir rejoints pour cette revue de presse large, finalement. Même si la presse se rétrécit, comme tu le dis, il y a toujours matière à information et à commentaires. Merci aussi donc à Jean-Émile Sanchez qui nous a rejoints par téléphone, au colonel. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous demain matin à la même heure, donc de 9h05 à 10h05 sur les ondes de Radio Canu 102.2 MHz pour une nouvelle émission de Bistan brouille l'écoute. À demain.
À demain.
Bistan brouille l'écoute.